Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Touchdown Actu. On se retrouve comme chaque jour désormais au cours de ce mois d'avril pour analyser les besoins d'une équipe NFL avec aujourd'hui la conférence américaine à l'honneur, la AFC West plus précisément et les Los Angeles Chargers. Comment la franchise de Brandon Staley va se remettre de cette lourde chute en playoff subie face aux Jacksonville Jaguars. On analyse un petit peu les différents besoins pour entourer Justin Herbert et la défense californienne. Et pour en parler au cours de cette émission, Jean-Michel Boujard est en ma compagnie. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Grégory, bonjour tout le monde. Allez, la draft approche là, on est chaud.
Tout à fait, on arrive dans la dernière ligne droite désormais pour cette draft 2023. Et les Chargers, pour le coup, à l'inverse de Miami dont on a parlé hier, auront d'ailleurs un premier tour dès le jeudi, donc ce sera une équipe intéressante à surveiller, Jean-Mi. On va analyser aujourd'hui leur premier, deuxième et troisième tour, 21e, 54e et 85e choix en l'occurrence, et on essaiera de s'intéresser à un sleeper, une possible bonne affaire à récupérer pour les Angelinos entre le 4e et le 7e tour. Je te donne la main pour commencer donc au cours de cette émission, donc sur le premier tour, le 21e choix. Tu es parti vers la défense pour améliorer cette équipe de Los Angeles.
Oui, je suis parti vers la défense. C'est vrai, quelque part, on s'attend peut-être à un receveur rapide et c'est possible. De toute façon, il y a plusieurs possibilités. Donc, écoutez, on vous en propose deux. Et oui, la défense, pourquoi? Ben, déjà, Brandon Staley, faut pas oublier que c'est un entraîneur qui vient du côté défensif du ballon. Donc, voilà. Ça, on peut pas l'oublier. Donc, forcément, il va considérer la défense. Et pourquoi la défense? Ben, déjà, qui en défense? Ben, moi, j'y vais avec Brian Branch de Alabama. Voilà, j'ai pas donné sa position parce que ben, pour moi c'est plus un cornerback, c'est un nickel cornerback. Et quelque part, ben, pendant des années, les Chargers, il y avait un joueur un petit peu similaire, alors pas tellement en termes de gabarit, mais c'était un peu ce même joueur, c'est Desmond King, c'est-à-dire ce type de cornerback, mais plutôt à l'intérieur et capable dans plusieurs domaines, c'est-à-dire capable de plaquer, capable de couvrir, capable de faire plein de choses. Et Brian Branch, ben, c'est ça, c'est juste ça. C'est quelqu'un que tu alignes dans le slot, voilà, en tant que nickel par exemple, et il peut faire plein de choses. Déjà, c'est un très très bon plaqueur, voilà, un super plaqueur, y compris lorsqu'il faut dépasser la ligne d'engagement et faire des plaquages pour perte. Il en a fait 14 en 2022, c'est énorme. Voilà, c'est un très très bon plaqueur, que ce soit pour les coureurs, avant ou après la ligne d'engagement. Il peut suivre un tight end, il peut attaquer en blitz, en fait, il sait tout faire, et c'est vraiment ce qui manque, moi, je trouve, là, aux Chargers, parce qu'ils ont des cornerbacks à l'extérieur, mais l'intérieur, ben, ça manque vraiment, quoi. L'année dernière, ils avaient Callahan, il est plus là, ils ont Jasir Taylor, mais c'est très très moyen. Brian Branch, c'est un super joueur, voilà. Il manque peut-être des dimensions physiques idéales, mais tu le mets comme ça au milieu du terrain, il peut tout faire, c'est vraiment une pièce d'échec. Voilà, on l'a dit, Brandon Staley, c'est un entraîneur à l'esprit défensif, donc du coup, il saura le bouger d'un jeu à l'autre, d'un match à l'autre, suivant les adversaires, et ça va rendre toute ta secondary bien meilleure. Brian Branch, pour moi, ça serait un choix solide au premier tour.
Alors, ma question avant de surenchérir, parce que globalement, je suis d'accord avec toi, on ne dit que du bien de Brian Branch depuis plusieurs mois maintenant, sachant qu'en plus, en effet, Nazir Adderley ayant pris sa retraite, il y a quand même une possibilité, si on veut l'utiliser comme un free safety un peu plus classique, encore une fois, même si tu le disais, on peut le positionner à peu près partout sur l'intérieur et sur l'extérieur du secondary. Est-ce qu'il faudra passer par un trade-up pour le récupérer, selon toi?
Oui, ça c'est oui, c'est possible, voilà, oui.
Mais s'il y a une
On dit
aubaine,
quand
s'il y a une aubaine en 21, je pense que c'est ton postulat de base, il n'y a pas d'hésitation a priori. Mais du coup, je te laisse reprendre ton propos, excuse-moi, mais du coup, je partirais plutôt là-dessus.
Oui, voilà, c'est plus ça. Après, je sais pas si vraiment ils peuvent trader. Bon, Telesco, il a montré qu'il n'est pas timide, hein. La draft, il peut monter, il peut descendre, il peut faire des choses. Donc oui, ça pourrait être une bonne affaire. Si c'est pas très cher de monter de 3-4 places et de récupérer, moi je trouve que ça serait vraiment un choix très très malin. Après, non, je suis parti du postulat que quels seraient les meilleurs joueurs disponibles à 21, voilà, et j'ai considéré qu'ils seraient voilà dans cette zone-là. Après, à voir. Oui, pourquoi pas monter un tout petit peu pour le prendre aussi, parce qu'il va être convoité, hein, c'est obligatoire.
C'est sûr. Bon, en tout cas, t'es parti sur la défense. J'ai pris également cette direction-là. Alors, j'avoue qu'initialement, je m'étais posé la question d'un joueur qui a évolué du côté de Pittsburgh, puisqu'en l'occurrence, le coach de receveur actuel du côté des Chargers, est Chris Beattie, qui a recruté notamment du côté de Pittsburgh un certain Jordan Addison. Donc, je me suis un petit peu creusé la tête par rapport à ça, me dire que c'était un bon fit, etc., etc. Ce qui, en l'occurrence, serait le cas, hein, vu qu'il y a des besoins sur cette position-là. Mais je me suis plutôt dit que, vu la profondeur sur le poste de receveur, peut-être qu'il faudrait regarder vers un autre joueur de Pittsburgh, en l'occurrence, et sur un poste plus défensif. Et ça tombe bien parce qu'en 21, c'est peut-être plus probable de le récupérer. La ligne défensive, globalement, a pas une profondeur absolument monstrueuse avec en plus quelques joueurs en fin de contrat l'année prochaine. Donc j'ai considéré, tu en as parlé un petit peu précédemment, Kalijah Kansi, donc lineman défensif de Pittsburgh, hein, qui ne cesse de grimper un petit peu dans la hiérarchie. Alors c'est vrai, il y a toujours cette comparaison de par sa capacité, notamment sur le pass rush, cette comparaison à Aaron Donald. Il me semble que Brandon Staley a coaché les Rams il n'y a pas si longtemps que ça. Et il me semble en l'occurrence qu'il aime bien, oui, les linemen défensifs assez vivaces, enfin en tout cas voilà, qu'ont des profils assez hybrides et une capacité notamment à rusher le quarterback. On voit que par exemple Morgan Fox est un de ses hommes de confiance sur le premier rideau. Donc voilà, le fait que Kalijah Kansi arrive, ça peut à mon sens être un vrai upgrade, une vraie amélioration. C'est un joueur qui est vraiment capable, qui est vraiment très agressif au contact, qui a une explosivité assez détonnante pour la position, qui a un gabarit très atypique, et c'est là aussi où on compare beaucoup à Aaron Donald, c'est que c'est certainement pas le defensive tackle le plus massif, c'est pas un Mazi Smith ou un Jordan Davis l'année dernière, c'est typiquement pas ce profil de mammouth qui va être étonnamment mobile, mais ça va être une petite boule de nerf, on va dire, sur le premier rideau, et un joueur qui va falloir se coltiner sur tout un match avec des bras de fer constants. Donc je me dis que pour améliorer cette défense des Chargers, et notamment ce front 3, c'est pas une mauvaise chose d'apporter un petit peu plus d'agressivité. Voilà, on a donné le ton un petit peu l'année dernière sur la ligne offensive en allant chercher Zion Johnson au premier tour. Je pense que donner un petit coup de boost sur la ligne défensive cette année, ce sera pas forcément un mauvais calcul.
Ah oui, non, ce serait même un très très bon calcul, hein. Je veux dire, si de chaque côté tu as Joey Bosa, Khalil Mack et qu'au milieu de tout ça tu ajoutes Kalijah Kansi, ben bon courage aux lignes offensives adverses, hein. Donc oui, forcément, oui. Et puis comme tu l'as dit, voilà, Staley, il a connu Donald, alors oui, c'est pas Donald, etc. Mais Kansi, il est tellement explosif, en plus il a une très bonne technique, c'est pas juste, voilà, il est rapide, il fonce dedans, non, non, il a une très bonne technique de bras, de pieds, d'intelligence de jeu, il identifie le bon gars, puis il sait se défaire des prises à deux, etc. C'est vraiment un super joueur, donc ouais, ça serait un super bajou là pour cette ligne défensive. Ah ouais, il n'y a aucun doute, mais là aussi, tu vois, c'est un petit peu comme la question que tu me posais par rapport à Brian Brown. C'est même pas sûr qu'il faille pas faire un petit trade-up pour aller le chercher, parce que par exemple, moi je le verrais bien aller aux Lions, hein, parce que les Lions auront aussi ce besoin-là. Et puis aux Lions, le manager c'est Brad Holmes, qui justement était des Rams quand ils ont sélectionné Donald, donc je le verrais bien aussi partir à 18, mais en tout cas, dans ces eaux-là, en tout cas, s'il est disponible, ça serait un très bon choix aussi, Kalijah Kansi. Ah oui.
Oui, on est sur un poste de ligne défensive où il y a beaucoup de points d'interrogation. On va pas rappeler la situation de Jalen Carter, la situation extrasportive. Brian Breezy est pas celui qui a marqué le plus de points malgré son profil athlétique pendant le combine. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent être un petit peu redistribuées sur la position. Et comme sur le poste de receveur, par exemple, on peut très bien avoir des linemen défensifs qu'on n'attendait pas aussi haut, finir dans le top 20 en effet. Et peut-être que pour les Chargers, voilà, je pense ça comme un fait établi. Mais en effet, ça peut peut-être être un joueur pour lequel il va falloir se battre un petit peu plus qu'avec simplement un 21e choix. Je te rends la main, Jean-Mi, pour ton deuxième tour, surtout qu'on va rester sur la ligne défensive avec un profil différent, en l'occurrence, mais un joueur qui resterait en Californie.
Oui, c'est ça exactement, puisque c'est Tuli Tuipulotu de USI. Oui, c'est un defensive end. Alors, c'est vrai que quelque part, j'aurais pu vous parler d'un defensive tackle, parce que les Chargers ont eu énormément de mal à stopper la course l'année dernière, etc. Mais c'est aussi le principe de nos pastilles. On a déjà parlé de ceux qui devraient être dans cette zone-là, tous les Dexter, Benton, Mazi Smith. Donc, du coup, j'ai fait un autre choix. Et pourquoi pas Tuipulotu? Parce que c'est un defensive end qui est très bon contre la course. De toute façon, voilà, il a fait 22 plaquages pour perte. La moitié, c'était des sacs. Mais donc, l'autre moitié, c'était des plaquages de coureurs avant même qu'ils franchissent la ligne. L'engagement, il est très bon contre la course, il est très costaud. Voilà, donc ben oui, ça pourrait arranger ce côté-là de la défense. Il gagne bien ses duels, il a beaucoup d'engagement, il a les mains violentes, lui, il a un gros moteur. Il a toujours un compteur en réserve, vous savez, le compteur, c'est-à-dire avoir un move supplémentaire. Il va attaquer son lineman d'une façon, ça marche pas, hop, il a un mouvement en réserve, et puis voilà, il arrive à s'en défaire, il peut proposer autre chose. Il a une polyvalence qui est très intéressante aussi. À USC, il a joué avec une main au sol comme un défenseur. Il a joué debout comme un 3-4 de linebacker, il sait faire beaucoup de choses. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que il n'a pas encore 21 ans. Voilà, il aura 21 ans en septembre, donc il est très 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 jeune. Et quand tu vois que Joey Bosa et Khalil Mack sont deux très bons joueurs, mais ils ont des contrats énormes, et on le sait en NFL, il faut aussi préparer l'avenir, gérer les contrats, etc. Tu peux te dire que si tu prends un Tuipulotu cette année, déjà tu le mets dans ta rotation, tu augmentes la valeur de ta rotation, mais en plus tu prépares l'avenir, tu développes le joueur, et puis dans un an, dans 2 ans, eh ben tu laisses soit Mack, soit Bosa partir, et tu as déjà un très bon remplaçant à moindre coût dans ton effectif. Et pour moi, ça serait tout bénéfice, donc pourquoi pas? Tu lis Tupolotu de USC.
Oui, ça paraît pas incohérent, encore une fois, ce que tu disais, notamment cette polyvalence très très précieuse, ce fait de jouer lineman intérieur et defensive end en même temps, ça peut vraiment être une capacité à brouiller les cartes, on dira, pardon, pour Brandon Staley et son nouveau coordinateur défensif, Derek Hensley. Donc oui, sans développer plus que ça sur les edge rushers, parce que je vais en parler dans quelques minutes, mais c'est vrai que ce serait une solution vraiment pour booster le front seven et rendre cette défense des Chargers beaucoup plus agressive qu'elle aurait pu l'être, en tout cas au cours de la saison 2022. Alors moi, du coup, je vais revenir en attaque. J'ai cité tout à l'heure le fait que j'avais considéré la position de receveur pour le premier tour avec Jordan Addison. Autant j'ai pas franchi le pas au premier tour, autant je me dis, vu les problèmes de santé qu'on a vus la saison dernière, vu l'âge avançant malgré tout de Keenan Allen, faudrait peut-être éventuellement essayer de trouver une solution. Alors j'ai l'impression que aller chercher un receveur dès le premier tour, il y a peut-être un côté, bon bah voilà les vieux, maintenant il y a un nouveau joueur qui arrive. Peut-être aller sélectionner un joueur au deuxième tour un peu moins encombrant, on dira, dans le vestiaire. C'est peut-être une solution aussi qui va être privilégiée. Je suis parti sur un profil différent de ce qui est actuellement du côté des Chargers. On a beaucoup de joueurs assez grands, assez utiles notamment sur la menace verticale. Et je me dis que pour évoluer dans le slot, on pourrait aller se pencher sur un Josh Downs, receveur de North Carolina. Alors, j'ai sélectionné Khalid Jakansé au premier tour, donc on va me dire, tu ne prends que des joueurs qui sont plus petits que la taille idoine, on dira, sur leur position. Mais en tout cas, voilà, Josh Downs, principalement au-delà de l'aspect vraiment physique, hein, parce que c'est sûr que c'est pas forcément un receveur qui va être capable d'être une arme absolue, par exemple, sur des défenses en presse ou ce genre de choses. C'est vraiment pas son style. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est capable de créer de la séparation. C'est un joueur qui a une capacité d'accélération assez détonnante, qui, voilà, comme je disais, a une capacité de tracer également assez respectable. C'est pas Jaxon Smith-Njigba, par exemple, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement solide dans ce domaine-là. Il peut en plus apporter sur équipe spéciale si les Chargers en ont besoin. Donc, je me dis, mine de rien, ça peut être une arme, un joueur encore une fois à développer et qui peut exploser un petit peu dans le même registre, on dira. Je dirais pas que c'est le même profil exactement, mais qu'un DeAndre Carter l'année dernière du côté des Chargers. Cette capacité à être intéressant sur équipe spéciale, mais être un joueur encore plus létal, je pense, d'un point de vue offensif, tout en apportant un gabarit différent, une explosivité différente de ce que peuvent apporter justement Allen et Williams.
Oui, mais c'est ça. Josh Downs, c'est un accélérateur de particules et les Chargers en ont besoin. Ils en ont manqué en 2022. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, oui, ce serait un très très bon choix. Et comme tu dis, très complémentaire des grands Mike Williams, Joshua Palmer, etc. Donc, oui, c'est un joueur très intéressant. En plus, il a eu une marge de progression tout de même parce qu'il sort de deux très bonnes saisons. Mais c'est vrai qu'en 2021, il avait fait 10 drops par exemple et puis il en a fait que 3 en 2022. Donc, tu vois aussi qu'il commence à arriver à maturité, en marge de progression, etc. C'est un joueur très intéressant. Ce serait un choix très solide au deuxième tour, oui, effectivement.
Et justement, alors on était d'accord sur la même défensive, mais pas sur la même position. On va être d'accord sur un receveur, mais là encore pas sur le même tour, puisqu'avec ton troisième tour du côté des Chargers, tu es parti sur un receveur de West Virginia. Dis-nous en plus.
Oui, c'est ça exactement, parce qu'il faut améliorer ça. Je veux dire, Justin Herbert, il a un gros bras, mais en 2022, il n'a pas pu vraiment l'exploiter. Quand on regarde la moyenne de yards par lancé, etc., c'est pas tout à fait ça. Et il faut utiliser le bras puissant de Justin Herbert, il faut attaquer la profondeur. Et donc oui, je vais vous parler de Bryce Ford Whitton. C'est un joueur qui nous vient de West Virginia, donc il a fait 4 bonnes saisons. C'est un receveur avec de la taille, un bon gabarit. Il a montré qu'il était capable de s'imposer dans les catchs contestés, de gagner des yards après réception. Mais quelque part, je suis en train de vous parler un petit peu de ce qu'ils ont déjà avec un Joshua Palmer, par exemple. Sauf que, à la fin de la saison, est arrivé quoi? Est arrivé le NFL Combine. Et là, le gars, même si on l'avait un petit peu vu déjà sur le terrain, bien sûr. Mais là, on a vu, il a signé un 4,38 sur le 40 yard. Donc voilà. Alors, je veux bien le Combine. Ok, ils sont en short. C'est des exercices comme ça. Mais s'il y a bien une position où savoir courir vite sur une longue distance est importante, ben, c'est receveur. Alors, cornerback aussi. Mais receveur, c'est important. Et lui, il sait le faire. Et donc, du coup, voilà. Pour attaquer la profondeur, surtout quelqu'un qui a beaucoup de taille comme lui, eh ben forcément ça peut être très intéressant, que ce soit avec Josh Down, petit gabarit au deuxième tour, ou avec Bryce Ford-Whitton au troisième tour. Il faut de toute façon améliorer, amener comme ça une cible profonde pour Justin Herbert. Donc c'est une évidence, il faut qu'il fasse au deuxième tour ou au troisième tour, mais il faut qu'il fasse.
Oui, à sa décharge, je trouve qu'il n'a pas forcément été aidé du côté de West Virginia, parce que si on contextualise, il y a eu beaucoup de changements de quarterback. Beaucoup de problématiques un peu d'un point de vue offensif, hein, de changement de système offensif plus globalement. Et c'est vrai qu'il a fallu un petit peu s'acclimater pour sa part. Après, il y a des qualités athlétiques indéniables. On se dit qu'il y a une marge de progression qui du coup est notable, hein, parce que on sent qu'il n'a pas été utilisé à son plein potentiel du côté des Mountaineers. Il y a des petites fautes de concentration, notamment des mains qui sont pas forcément parfaites par rapport au reste du plateau, en tout cas qui restent perfectibles par rapport à d'autres joueurs de la QV. Mais très clairement, oui, c'est un pari qui peut être tenté. Alors, ça peut être le cas au troisième, ça peut peut-être au quatrième. Enfin, pour moi, entre 3 et 5, en fonction des receveurs qu'on préfère dans cette classe, c'est un pari qui peut se tenter. Ça me choque pas spécialement, mais oui, en tout cas, il y a vraiment un matériel, on va dire, qui peut être intéressant à exploiter. Et de ce point de vue-là, le combine, si on peut citer un joueur dans les gagnants, je pense que Bryce Ford-Whitton a clairement été un joueur assez gagnant dans ce registre-là, dans ce processus draft.
Voilà, c'est ça exactement, parce qu'en fait ce joueur on le connaît déjà depuis des années, c'est plutôt un bon joueur, et effectivement en le voyant jouer avec West Virginia on se disait ben voilà c'est un bon joueur, il va être pris au 5e, au 6e tour parce que ben il apportera un petit peu de rotation etc. Mais le combine, quand tu vois qu'il est aussi rapide que ça, ben je pense que les scouts ont fait ben ce que j'ai fait moi aussi, c'est-à-dire que j'ai vu son chrono, je dis attends, j'ai raté un truc là, je suis retourné voir un petit peu des résumés de matchs de West Virginia et tout, je dis ah oui quand même, et forcément sa valeur à la monter, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je le propose au troisième tour. Je pense qu'il pourrait partir en fin de troisième tour.
Tout à fait.
À voir.
Ouais, écoute, mon troisième tour, je reviens sur la défense. Alors tu parlais de Tuli Tuipulotu tout à l'heure. Globalement, on est d'accord sur les positions, hein, avec Jean-Mi, sur les priorités en termes de besoins. C'est peut-être plus en termes d'ordre de priorité du coup qu'on analyserait la chose un peu différemment. Mais je suis revenu du coup sur la défense et sur le front seven. Et je suis parti sur le poste de head rush, en l'occurrence, avec Byron Young de Tennessee, qui a déjà une première particularité. Alors, je vais rebondir très rapidement sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais en effet, malgré leur expérience, je ne sais pas combien de temps Khalil Mack et Joey Bosa resteront du côté de Los Angeles. Beaucoup de problèmes de blessures pour les uns et pour les autres. On va dire des saisons où ça déçoit beaucoup du côté de Joey Bosa, on voit du très très bon, mais on voit aussi du beaucoup moins rassurant. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interrogations à ce niveau-là, et peut-être qu'il faut un petit peu plus booster ce poste de edge rusher, où il n'y a pas forcément énormément de profondeur, hein. Dans mon souvenir, je crois qu'il n'y a que Chris Rumpf, je crois, en backup, on dirait, qu'il a été drafté très très récemment, mais dont on n'a pas vu non plus un échantillon hyper hyper étendu depuis son arrivée en NFL. Donc Byron Young, je me dis, projet assez séduisant sur le papier. Deux saisons, du côté de Tennessee, lui qui était avant dans un lycée militaire et qui est arrivé donc sur le tard du côté de Tennessee, recruté d'ailleurs à l'époque à Tennessee par Derek Hansley, coordinateur défensif des Chargers, donc c'est pas tout à fait anodin non plus. Et c'est un joueur qui, là aussi pour le coup, Alors, c'est mathématique, donc joueur qui est plus petit, qui a une taille qui n'est pas forcément parfaite pour un joueur de cette position-là, mais qui en tout cas est un joueur qui n'hésite pas à aller au contact, qui n'hésite pas à être très très actif en termes de bataille, on dira, pour les mains. Il pourrait avoir une panoplie de moves un peu plus développée, mais en tout cas, ça peut être un joueur capable d'allier, capable de miser sur de la vitesse, mais aussi et surtout de boule rusher s'il y a besoin de le faire, hein, pour un joueur de cette position-là. Je parlais de joueurs un petit peu teigneux tout à l'heure avec malheureusement j'ai oublié le nom du joueur avec Elijah Kansi, je vais y arriver. Je pense que si tu mets Kansi et Yang sur les mêmes séquences, je pense que voilà, tu vas avoir cette dose d'intensité et vraiment de volonté au duel. Alors encore une fois, tout n'est pas parfait. Sur le jeu au sol notamment, il pourrait être là encore un petit peu perfectible, mais encore une fois, je le répète, c'est un joueur qui a évolué 2 ans en première division universitaire et qui est devenu vraiment la figure de proue défensive du côté de Tennessee, qui peut être rapidement un homme de confiance du coordinateur défensif actuel. Et c'est un joueur qui, malgré tout, peut faire pas mal de choses avec une marge de progression, je trouve, assez raisonnable. Voilà, c'est un pari qui, pour un troisième tour, est un joueur d'avenir. Alors, je sais ce que tu vas me dire peut-être, hein, c'est un joueur qui a déjà 25 ans, me semble-t-il. Voilà. La marge de progression est notable d'un point de vue expérience. Peut-être que d'un point de vue âge, ça peut en refroidir quelques-uns, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas parmi les principaux pass rushers du plateau.
Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, qu'il avait 25 ans, mais c'est pour ça qu'il est disponible au troisième tour. Mais sauf qu'au troisième tour, ben, tu récupères, comme tu l'as dit, un joueur comme ça, très agressif, qui a beaucoup d'énergie, qui est très rapide, qui est toujours dans l'agression. Donc qu'est-ce que tu as à perdre? En plus, ben voilà, cette info, je l'avais pas. En plus, le coordinateur le connaît bien. Donc au troisième tour, tu vas chercher quoi? Ben des joueurs dont tu as quelques assurances et tu sais que dans ton système ça va fonctionner. Ben Byron Young, ça va fonctionner. Voilà, il est très rapide, il est agressif, et puis améliorer ta rotation déjà, ne serait-ce que ta rotation, c'est très important. On l'a encore vu l'année dernière, quand les équipes qui avaient une bonne rotation sur la ligne défensive, qui savaient mettre la pression avec beaucoup de joueurs différents tout au long d'un match, eh ben, ils gagnent des matchs, tout simplement. Donc, si tu veux gagner des matchs, améliore ta rotation. Donc, oui, Byron Young, ce serait un choix très, très, très solide au troisième tour.
Très bien. Bah, écoute, on va rester en tout cas en défense pour notre bonne affaire de cette draft, puisqu'en l'occurrence, tu es parti vers un defensive back venant de Texas.
Oui, c'est ça, la défense, mais tu vas voir, pas forcément. Mais sinon, oui, la défense, parce que c'est Deshaun Jamison, c'est un defensive back qui nous vient de Texas. Et oui, la défense, parce que quand même, c'est un defensive back très athlétique. En 2022, il a défendu 7 passes, il a fait 2 interceptions. Donc oui, c'est quelqu'un qui va te rendre des services, qui va apporter un petit peu, qui va améliorer un peu ta rotation, etc. Donc déjà, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, en fin de draft, c'est une bonne affaire, c'est pas mal. Mais en vrai, si je propose Deshaun Jamison, c'est surtout pour retourner les coups de pied. Parce que voilà, les Chargers ont peiné dans ce domaine en 2022 et il faut améliorer ce domaine. Et lui, Deshaun Jamison, il est tout simplement exceptionnel. Enfin, exceptionnel, ouais, je m'enflamme un peu, mais il est très très bon pour retourner les coups de pied. Et non seulement il a tous les attributs pour le faire, mais surtout il a l'expérience. Parce que c'est vrai, des fois, on peut se dire, ben voilà, tel joueur est rapide, on va le mettre en équipe spéciale et on va voir. Mais bon, si le gars il l'a jamais fait, il saura pas le faire. Lui, il sait le faire. Voilà. Il l'a montré à l'université, il l'a fait souvent et il a souvent très très bien fait. Donc voilà, pourquoi ça serait une bonne affaire? Ben déjà, tu ajoutes un peu de rotation avec un joueur quand même de qualité, qui a des qualités. Il va ajouter de la rotation à ta secondary. Et puis surtout, pour les retours de coups de pied, c'est très important. Il sait le faire, il est très bon pour le faire. Donc du coup, voilà, banco, vas-y, surtout que c'était une de tes faiblesses en 2022. Donc, Deshaun Jamison de Texas.
Oui, et qui est spécial dans les deux côtés du ballon en l'occurrence, hein, parce que c'est un joueur qui est pas. Qui va pas avoir spécialement peur pour les plaquer. Ça a été un leader vraiment émérite du côté de Texas ces dernières saisons. Oui, non, je te rejoins. C'est un joueur un peu sous le radar, on dira, sur une grosse classe de cornerback. Mais c'est un pareil qui peut se tenter du côté de Los Angeles largement. On va rester en backfield défensif. Tu as parlé de Brian Branch tout à l'heure. Je suis parti sur un safety pour ma bonne affaire du jour. Et on va parler de Kayvon Merriweather, safety d'Iowa. Qui en l'occurrence, je trouve, est un joueur un petit peu sous-coté, c'est peut-être un petit peu exagéré en l'occurrence, mais dans cette classe de safety, je trouve que c'est un joueur assez complet, qui s'en est pas trop mal sorti durant le processus draft en l'occurrence, qui a marqué beaucoup de points, qui a fait partie de cette défense. Alors c'est vrai que c'est très polarisé entre guillemets par certains joueurs clés de cette défense d'Iowa avec Jack Campbell sur le poste de linebacker, forcément Riley Moss. Sur le dernier rideau, mais Kevin Merriweather en tout cas était un joueur assez précieux sur le dernier rideau. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui en tant que joueur de profondeur peut être assez utile. On parlait de la situation sur le poste de free safety. Je continue de me dire que s'ils ne privilégient pas les premiers tours de la draft, ils iront vers un free agent peut-être pour remplacer durablement Nazir Adderley. Mais en tout cas, il peut dépanner en tant que free safety. Et j'oublie pas que Derwin James, c'est quand même pas là aussi l'assurance tout risque concernant des problèmes de blessure. Donc potentiellement avoir ce profil-là, sachant qu'il est principalement free safety du côté d'Iowa durant son cursus universitaire, c'est peut-être pas quelque chose de négligeable. Donc là encore, c'est un special teamer de base qui peut apporter de l'aide sur le poste de free safety, de strong, un petit peu de slot également si le besoin s'en fait sentir. C'est un joueur avec de très très bons instincts globalement. Donc très franchement, j'avais été assez agréablement étonné, on dira, notamment par sa prestation lors du Senior Bowl aussi. Donc on voit que globalement, c'est l'air d'être un caméléon et un joueur qui peut s'adapter à tout type de circonstances. Donc je pense que du côté des Chargers, il est capable éventuellement de tirer son épingle du jeu et de s'imposer durablement sur les snaps qu'on lui donnera.
Oui, mais c'est ça exactement la bonne affaire. Pourquoi? Ben parce que tu ajoutes de la rotation à ta secondary, et pas n'importe quelle rotation, tu ajoutes de la polyvalence. Comme tu l'as dit, avec Iowa, il a joué un petit peu tous les postes. Oui, free, bien sûr, mais il a aussi joué strong, il a joué nickel cornerback. C'est un joueur, et alors il n'a pas une qualité élite exceptionnelle, et c'est pour ça que ça sera une bonne affaire le samedi de la draft et pas avant, mais il sait faire de tout. Donc du coup voilà, c'est un joueur que tu ajoutes comme ça dans ta rotation et il peut tout faire, y compris en équipe spéciale. Et puis lui aussi, c'était un des capitaines de l'équipe d'Iowa, donc voilà, la bonne mentalité, le travailleur, eh ben c'est ça aussi une bonne affaire. Donc oui, ça serait lui aussi un bon ajout pour les Chargers.
Très bien. Bah écoute, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ces différentes sélections des Chargers. On a un peu penché vers la défense, mais vous voyez qu'il y a différentes possibilités en l'occurrence du côté de la Californie. Merci en tout cas Jean-Mi d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour parler d'une nouvelle équipe d'AFC. On prendra la direction du Nord cette fois-ci pour aborder les Baltimore Ravens. D'ici là, passez une très bonne journée à l'écoute de TDA. Salut à tous et à très vite.
Allez, ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.